Bonjour tout le monde et bienvenue au tout nouvel épisode de Première Loge spéciale séries éliminatoires de l'Inside Hockey. Pour l'occasion, on va revenir sur les deux matchs qui ont eu lieu jeudi soir, match numéro 2 du deuxième tour. Pour l'occasion, encore une fois, c'est moi, Doyle Ibrahim, qui va être à l'animation pour cet épisode. Et pour l'occasion, on est trois. Il y a Grégory Hamel avec moi et M. Nicolas Charron. Messieurs, comment allez-vous?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien.
Ben, écoute, je vais pas payer, puis c'est la première fois que ça faisait un bout que j'ai pas fait un épisode avec Nick, là, je pense. En tout cas, je m'en avais dit c'était quand la dernière fois, mais c'est un petit bout, mais ça va être le fun aujourd'hui. Puis comme j'en avais parlé un peu avant l'épisode, on va parler de la défaite des Leafs hier soir. On va commencer avec ce match-là. C'était le match numéro 2 du deuxième tour entre les Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto. Les Panthers menaient déjà 1-0 dans cette série et avaient l'occasion d'accentuer leur avance à 2-0. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en remportant le deuxième match à Toronto par la marque de 3-2. Ça avait super bien commencé pour les Maple Leafs. Pourtant, Alexander Kerfoot et Ryan O'Reilly avaient marqué très tôt dans la rencontre pour donner une avance de 2-0 au Maple Leaf après seulement 5 minutes de jeu. Puis, par la suite, les Panthers sont revenus dans la rencontre. Anton Lundell a marqué son premier but des séries éliminatoires pour réduire l'écart à un but après la première période. Et en deuxième période, en l'espace de moins d'une minute au début de la deuxième période, les Panthers ont marqué deux buts. Alexander Barkov a marqué son deuxième des séries et Gustav Forsling a marqué moins d'une minute après pour donner une avance aux Panthers de la Floride. Et ça a été le but de la victoire pour les Panthers de la Floride. Et les Panthers retournent du côté de la Floride avec une avance de 2-0. Messieurs, comment expliquer cette petite débandade du côté de l'UMP, eux qui avaient quand même super bien commencé la rencontre? Je vais commencer avec toi, Nick, pour l'occasion.
Ben écoute, on le sait que les Maple Leafs en série, c'est pas nécessairement l'équipe la plus confiante, puis ça prend pas beaucoup de choses d'habitude pour les faire déroger de leur plan de match. Comme tu dis, ils ont super bien commencé le match, puis en général, je pense pas qu'ils ont joué un mauvais match. T'sais, si on regarde les tirs au but, ils ont quand même 37 tirs au but, ils en ont accordé 29. T'sais, ils ont marqué un but en avantage numérique. C'est pas faute d'essayer, mais c'est juste vraiment défensivement, il faut que tu resserres. T'sais, on joue contre une équipe de la Floride que, on le sait, l'année passée, c'était une des meilleures. Ben, c'était en fait, ils ont fini premier de la ligue. Puis même s'il y a eu des changements dans l'équipe, ça reste qu'ils ont des joueurs extrêmement, extrêmement talentueux, des joueurs qui sont capables de marquer des gros buts. Puis, t'sais, quand c'est une boule de neige qui commence, on dirait qu'ils sont pas capables de l'arrêter. T'sais, là, hier, on le voyait déjà un peu. Le but en fin de période, c'était plus en mi-période même. Là. Mais le but après leurs deux premiers buts, ça a eu l'air un peu de leur couper les jambes. Puis même si ça n'a pas été au niveau qu'ils se sont fait dominer par après ou quoi que ce soit, mais ça reste qu'on voyait que leur confiance s'est ébranlée. Puis c'est vraiment des erreurs que, écoute, je pense tu dois éviter du côté de Toronto. C'est des buts que, oui, les Panthers ont travaillé, mais ça reste que Toronto, en étant plus allumé défensivement, tu peux pas accorder ça. Là. Fait que, écoute, je pense qu'ils payent cher leurs erreurs. Puis comme tu as dit, là, c'est les deux matchs à domicile qui sont partis direct en partant. Ça va être difficile. Là. Évidemment, sûr, en Floride, c'est pas nécessairement la foule la plus brillante ou l'amphithéâtre le plus difficile à aller jouer. Mais ça reste que, écoute, quand t'es Toronto, tu veux gagner à domicile, surtout. T'sais, on dira ce qu'on voudra, ils ont quand même des partisans fidèles qui les suivent, qui font du bruit, tout ça, puis ils n'ont pas été capables d'aller chercher une victoire. Donc, c'est assez. C'est épeurant, on va dire, pour les Maple Leafs, surtout pour les fans, de se dire qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher au moins un match à domicile. Donc, je pense que c'est encore. Tout est à jouer, ça reste que rien de fait. Ils ont l'équipe pour marquer une tonne de buts, mais ça reste que. Ça va être difficile. Ils sont pas dans une très bonne situation.
Mm-hmm. Vas-y, c'est un match que, je veux dire, les Maple Leafs ne pouvaient pas échapper, qu'ils ont échappé. T'as mentionné, là, après 5 minutes, c'était 2-0. Je me suis dit, bon, c'est fait. Là, on va un peu neutraliser notre zone, puis on va réduire vraiment les chances de marquer les Panthers. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Puis je pense que c'est un match que si on regarde globalement, je pense que les Maple Leafs ont été de loin la meilleure équipe. Je pense que Bobrovsky a été phénoménal. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de performance-là depuis qu'il est venu en substitution à Alex Lyon. Là, ça a été c'est assez impressionnant son niveau de jeu. Puis, ben, je veux dire, c'est vraiment les deux buts en 47 secondes. Je pense que c'est un manque de concentration en début de période qui a vraiment fait mal. Le but égalisateur, le but gagnant, qui sont venus en l'espace de 1 minute 6, ben en fait 47 secondes de différence là, entre les deux buts. Puis en plus, les deux buts, je veux dire, c'est pas des buts qui sont faute de, mettons, la profondeur qui n'ont pas fait leur travail ou des choses comme ça. C'est des revirements de la part de Nylander, le premier, puis par la suite de Matthews, le deuxième, qui ont directement mené à des buts des Panthers. Donc, je pense que c'est ces meilleurs joueurs-là qui doivent se lever. Pour l'instant, j'ai pas vraiment vu ces gros canons-là. On l'a mentionné en première ronde, c'était important qu'eux, ils se lèvent. Je pense qu'ils l'ont fait, les gros joueurs des Maple Leafs. Puis là, en deuxième ronde, je pense qu'au cours des deux premiers matchs, ça a vraiment été un problème. Là. Je pense qu'on les voit pas assez. Puis je pense que, tu sais, là, les Panthers doivent juste gagner deux des cinq prochains matchs. Ils ont l'avantage de la maison. Mais si les Maple Leafs veulent avoir une chance de revenir dans cette série-là, il faut falloir que c'est le top 6, puis que les gros canons des Leafs se réveillent.
Mm-hmm. Puis tu l'as bien dit, tu sais, c'est vraiment... Oui, le premier but des Panthers, c'est pas en fin de période, mais ça reste que tu avais marqué deux premiers buts en début de match. Tu prends de la confiance, oui, OK, tu fais marquer un but, mais tu te dis, entre les périodes, OK, on revient fort, on va bien débuter les périodes, bien finir les périodes, c'est un cliché, mais ça reste tellement important parce que ça peut tellement te casser les reins d'accorder ça, puis ça peut te scraper une période au complet. Tu sais, on l'a vu, là, quand t'es pas prêt, quand t'es pas en confiance, c'est ça que ça donne. Tu sais, je veux dire, une équipe qui se fait marquer un but direct en partant, c'est OK, go, tu mets la rondelle dans le fond, tu vas mettre de la pression. Puis là, 47 secondes plus tard, ils se font marquer un autre but sur un revirement, comme tu as dit. Je pense que là, c'était Matthews, le troisième. En tout cas, tu sais, un joueur justement que tu veux pas qu'il fasse ça, c'est un de tes leaders, un de tes meilleurs joueurs. Puis tu dois montrer l'exemple. Puis écoute, c'est. Comme je dis, je pense que c'est typique d'une équipe qui n'est pas en confiance nécessairement. Même si on passait à la première ronde, ça reste que. Tu sais, comme tu dis, hier, selon moi, ils ont vraiment bien joué la majorité du match. Ils ont amené beaucoup de rondelles au filet. Puis c'est Bobrovsky qui a réussi à tenir les Panthers dans le match. Mais ça reste que. Tu peux pas te permettre des fausses creuses comme ça pendant un match. Surtout en série, rendu en deuxième ronde. Les Panthers, c'est une équipe opportuniste. Ils l'ont montré contre les Bruins. Fait que. C'est juste le genre de jeu que tu peux pas faire malheureusement. Puis là, écoute, c'est 1 minute 6, mais 1 minute 6 de trop dans le match.
Ouais. Ouais, puis j'ai mentionné là, les gros canons des Leafs. Quelque chose qui est dommage pour eux aussi, c'est la perte de Matthew Nyes qui va pas être là pour les matchs 3 et 4 minimum. Je pense que s'ils avaient été un de leurs meilleurs joueurs, un de leurs bougies d'allumage au cours des dernières parties. Puis pour faire un peu un lien avec ça, là, les gros canons des Panthers, la ligne qui fait vraiment mal là, du côté des Panthers, c'est la ligne composée de Cousins, Bennett, Tkachuk, qui fait la pluie et le beau temps. Là, c'est n'importe quoi. C'est trois joueurs que tu détestes affronter, mais que tu prendrais n'importe quand dans ton équipe, surtout en série. C'est trois joueurs taillés sur mesure pour les séries. Puis eux, je veux dire, ils sont réveillés depuis le match numéro 1 contre les Bruins. Puis c'est un peu eux. T'sais, on a parlé de Bobrovsky, mais c'est aussi eux qui font vraiment la différence en partie. T'sais, à chaque fois qu'ils sont sur la patinoire, on le sait. Puis ils font la différence là, pour les Panthers.
Mmh, ouais, puis vous avez parfaitement mentionné, Sergei Bobrovsky a joué son meilleur match des séries éliminatoires pour l'instant. Il a été fantastique. Là, encore une fois, là, c'est 35 arrêts sur 37 tirs. Surtout à partir du milieu de la deuxième puis de la troisième période, Sergei Bobrovsky a joué les deux périodes extraordinaires. Il a joué un match fantastique. Puis écoute, je pense pas être le seul à dire ça, mais j'étais très sceptique des performances de Sergei Bobrovsky, surtout depuis son arrivée en Floride. T'es arrivé avec un gros contrat, gagne 11 millions par année. Ça faisait plusieurs fois qu'il avait perdu son poste de gardien de but en Floride. Puis même dans les séries éliminatoires, début des séries, c'est Alex Lyon qui était gardien numéro 1 de cette équipe. Les Panthers s'est qualifié en série. Avec une bonne fin de saison d'Alex Lyon, puis Sergei Bobrovsky est venu en relève de Lyon, puis depuis, il a quand même été excellent, puis en ce moment, ben, dans cette série-là, c'est peut-être le meilleur joueur des Panthers de Floride, autre que tu viens de mentionner, le trio le trio de Matty Tkachuk, Nick Cousins et Sam Bennett. Matty Tkachuk, encore une fois, je trouve ça triste pour les Flames de Calgary, pour vrai. Là. Moi, Nick, on a eu des débats l'an passé, hein, parce que lui, il me disait « Ouais, Jonathan Berdoux, le meilleur joueur des Panthers, nanana. » Je vous le dis, je vous le répète, Matty Tkachuk est de loin supérieur à Jonathan Berdoux et il a seulement 25 ans. Fait que fait qu'on a très hâte de voir ce qui va se passer pour Tkachuk les prochaines années, mais c'est clairement la bougie d'allumage, puis c'était peut-être le joueur qui manquait aux Panthers de la Floride, qui est quand même une équipe. On parlait de l'inexpérience des Maple Leafs de Toronto, ben la Floride aussi, au niveau de l'expérience, ils ont seulement gagné une avant la série contre Boston, ils ont seulement gagné une série en série éliminatoire, puis c'est une équipe qui manquait un peu d'expérience, mais pour l'instant, ça va très bien pour la Floride qui prenait une avance de 2-0. Là, j'ai une question à te poser à toi, Greg. Sheldon Keefe a dit qu'il n'y avait pas de sentiment d'urgence du côté de son équipe. Est-ce que tu penses que les Maple Leafs Toronto ont besoin d'avoir ce sentiment d'urgence-là ou doivent un peu garder ses calmes malgré qu'ils perdent 2-0 en allant en Floride?
Je pense que, surtout dans les séries, là, c'est vraiment un jeu de mental. Tu dis qu'on n'a pas vraiment de sentiment d'urgence. Je pense que les joueurs n'ont pas le choix vraiment de... Si on veut, tu sais, remporter cette série-là, c'est ce qui en manquait à cette équipe-là pendant si longtemps. C'est le killer instinct qu'on dit en anglais. Tu sais, une fois que tu mènes ou que dans une situation difficile, il faut que t'ailles l'instinct de pouvoir, tu sais, finir les choses puis de revenir dans cette série-là dans ce cas-ci. C'est ce qui a manqué au Maple Leafs pendant beaucoup de temps, je veux dire, même on menait 3-1 contre Montréal, là, fait que c'est un très bon exemple. Mais non, je pense que si les Maple Leafs sont pas vraiment de killer instinct, je sais pas, ils jouent pas avec de la presse ou de, tu sais, comme tu as mentionné, je sais pas, c'est quand qu'on va commencer un peu à jouer avec cette urgence-là, parce que je veux dire, quand ça va être rendu 3-0 Floride, puis qu'ils ont le contrôle de la série au complet, je pense que ça va être trop tard. Fait que je pense que oui, il faut commencer à jouer avec de l'urgence le plus rapidement possible. Puis je pense qu'il faut jouer avec de l'urgence le premier match que tu rentres en série. Tu sais, il faut que tu ne peux pas échapper de partie. Toutes les parties sont importantes en série. Donc, non, je pense qu'il faut nécessairement jouer avec de l'urgence, surtout quand on vient de perdre les deux premiers matchs d'une série à domicile.
Ah, puis jouer avec l'urgence. Tu sais, je suis d'accord avec le fait que oui, ils doivent presser le pas parce que, comme tu as dit, là, je veux dire, 3-0 versus 2-1, c'est vraiment un match crucial. Chaque match est crucial dans une série, mais ça reste que celui-là, c'est vraiment celui que tu veux pas perdre parce que remonter 3-0, c'est une méchante game. Là. Mais écoute, tu sais, je pense que ça reste que les Maple Leafs doivent pas rentrer du stress dans leur jeu. Tu sais, je veux dire, le dernier match, probablement qu'ils auraient dû gagner. Puis je veux dire, il amène beaucoup de rondelles au filet, c'est plus la finition qui manque, puis habituellement c'est pas nécessairement un problème qu'ils ont. On a parlé de Bobrovsky, il est en train de jouer comme dans ses belles années, fait que je pense que c'est tant mieux pour les Panthers, mais ça reste que, tu sais, Toronto doit pas nécessairement changer du tout au tout sa façon de jouer. Oui, est-ce qu'ils doivent peut-être avoir un petit sentiment de faut pas la perdre celle-là? Absolument, mais je pense que faut pas non plus stresse trop, parce qu'en jouant stressé, tu joues pas nécessairement de la bonne façon. Puis tu fais des erreurs mentales surtout. Fait que, écoute, c'est pas mal ça. Je veux dire, oui, il faut être stressé, mais à un certain point dans leur cas, parce que le prochain match, tu peux absolument pas le perdre, mais en même temps, tu peux pas jouer. Tu peux pas juste penser à ça tout le match, parce que sinon, je veux dire, tu n'es pas capable d'exécuter après. Puis là, c'est là que tu fais des erreurs qui devraient pas arriver, puis que tu te fais marquer des buts. Sur des revirements, sur des erreurs en zone défensive. Fait que, c'est pas mal ça. En gros, je pense qu'il faut qu'il soit prêt mentalement, qu'il joue comme le dernier match, mais avoir l'instinct, un peu comme tu as dit, vraiment d'aller finir ce match-là. T'sais, quand tu mènes 2-0, oui, essayer d'aller en marquer un troisième, mais surtout être conscient défensivement de ne pas s'en faire marquer un, parce que souvent, ça n'en prend pas beaucoup du côté des Leafs pour que ce soit l'élément déclencheur qui fait que. Après, c'est juste une grosse boule de neige, puis ça devient pire en pire.
Mm-hmm. Ouais, ben, du côté des Leafs, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, Greg, c'est le fait que là, Matthew Nice ne soit pas là, puis que c'était comme une genre de nouvelle. c'est un nouveau vent de fraîcheur du côté de Maple Leaf Toronto parce que c'est une recrue qui arrivait en séries éliminatoires, sortait de l'université. C'était comme une genre de nouvelle mini-sensation du côté des Maple Leafs. Ça faisait un petit bout qu'ils n'avaient pas eu ça. Bon, ils ont Ryan O'Reilly qui est arrivé, mais tu sais, Ryan O'Reilly, c'est un joueur d'expérience. Ça fait plusieurs années que les Matthews, les Nylander, les Marner sont là. Tavares, c'est également, c'est un joueur d'expérience. Mais avoir un petit joueur, peut-être avoir un nouveau joueur jeune qui a quand même dominé au niveau universitaire à Matthew Nice, puis qui malheureusement se blesse au match numéro 2, commence cérébral, va rater les deux prochains matchs au minimum. C'est vrai que ça peut être une lourde, ben pas une lourde perte, mais ça peut être une perte qui peut faire mal à court terme pour les Maple Leafs Toronto. Je vais finir là-dessus. Nick, selon toi, est-ce que les Maple Leafs peuvent réussir à gagner au moins un match, si ce n'est pas deux, dans cette série-là, ou tu penses que c'est fini et la Floride a l'avantage dans cette série-là?
Ben écoute, moi j'avais mis Floride en 6. Je pense qu'en Floride, ça va se diviser 1-1. Puis qu'en revenant à Toronto, Toronto va gagner, mais après ça, la Floride va remporter la série. Je pense vraiment que les Maple Leafs vont avoir un regain de vie éventuellement. Je pense pas qu'ils vont perdre le prochain match. Mais écoute, moi j'aime beaucoup la façon que les Panthers sont construits. Ils ont des joueurs comme tu as parlé tantôt, là, Tkachuk, vraiment, on savait qu'il était bon, mais il me surprend beaucoup. Là. On ne reviendra pas sur le trade à Huberdeau. C'est pas mon meilleur take jusqu'à maintenant, mais on va attendre plus qu'une année. Là. Mais ça reste que. Écoute, je pense que Tkachuk, vraiment, il prouve à quel point c'est un clutch player. Puis Paul Maurice l'a dit, puis honnêtement, c'est vrai. Là. Des joueurs comme ça qui se lèvent puis qui transportent son équipe sur son dos, il n'y en a pas tant que ça qui sont capables de le faire comme lui, il est capable de le faire en ce moment. C'est beau à voir. T'sais, il joue avec un gars comme Nick Cousins, qui c'est un gars qui travaille, un gars qui fit bien dans le moule à Tkachuk, qui n'a pas le même talent, mais ça reste que c'est le genre de gars que tu aimes mieux avoir dans ton équipe en série que dans l'autre équipe, juste pas sur ta première vague de powerplay.
C'est exactement ça que je vais aller rajouter. Le spécialiste de l'avantage numérique, Nick Cousins.
C'est une légende canadienne.
Avec Jordan Will à la pointe.
Ils ont été juste un peu trop tôt pour pogner le spécialiste Weidman à la défense. Ça aurait été incroyable.
Ah, oh, man, quel en tout cas, les prouesses de Claude Julien, hein, c'est waouh. C'est un spécialiste d'avantage numérique. Bon, Greg, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce que Nick vient de dire? Est-ce que tu es dans l'accord avec lui ou tu penses que.
Moi, je pense vraiment que ça va tout dépendre du match numéro 3. Si je pense que si Floride remporte ce troisième match-là, je pense pas que les Maple Leafs vont vraiment être en mesure de passer proche. Je pense qu'ils vont gagner un ou deux maximum. Par contre, je pense que si on remporte le prochain match là, en Floride, du côté de Toronto, on va installer le doute un peu. Ça va être 2-1. La pression va être un peu égale des deux côtés. Donc, je pense que tout va vraiment dépendre du troisième match. Mais d'après moi, je pense que les Panthers ont tout fait jusqu'à maintenant pour se situer dans une bonne situation.
C'est pas la première fois qu'on voit dans la série éliminatoire une équipe que tu as l'impression qu'après deux matchs, on contrôle la série et que finalement ils perdent. Ça a été le cas pour dans la série entre les Devils et les Rangers. Les Rangers ont remporté deux premiers matchs 5-1 puis ont quand même perdu la série. Donc, écoute, c'est loin d'être terminé dans cette série-là, je pense. Mais en même temps, c'est que c'est un peu le Toronto. Fait que t'es comme.
C'est loin d'être terminé, mais mettons que ça tombe 3-0. Là.
Ouais, là, c'est
une méchante côte. Là. C'est une méchante côte.
Ouais, c'est ça, mais on va plus savoir ça demain soir. Là. Moi, j'ai hâte
le prochain match est déterminant, selon moi.
Ben, il joue pas avant dimanche, en fait.
Ah, c'est dimanche, c'est ça. Ouais. Okay, c'est dimanche. Okay, je pensais que c'était aux deux jours. Non, c'est vrai. Il y a seulement, ouais. On a seulement un match ce soir.
Même samedi soir, on a juste un match.
Ouais, mais c'est quand même un bon match. C'est celui entre les Oilers et Vegas. Puis en tout cas, c'était tout un début de série pour l'instant dans l'Ouest. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dimanche. Moi, j'ai surtout hâte de voir. Bon, tu l'as mentionné, les Matthews, Marner qui ont été un petit peu plus absents dans les deux premières rencontres. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec eux. Facilement, puis hâte de voir comment ils vont pallier l'absence de Matthew Nice pour l'instant, mais écoute, ça risque d'être intéressant dans ces tirées-là. Bon, messieurs, maintenant on va aller du côté de l'Association de l'Ouest. C'était le match numéro 2 de la série entre les Stars le Kraken de Seattle du côté de Dallas. Le Kraken menait 1-0 dans cette série-là après un premier match, match numéro 1. Quand même spectaculaire, notamment avec un quadruplé de Joe Pavelski dans la rencontre. Mais le Kraken avait réussi à remporter cette rencontre-là 5-4 en prolongation. Mais hier, ça a été le contraire. Les Stars de Dallas ont été dominants. Ont été capables de remporter le match numéro 2 chez eux par la marque de 4-2, puis d'égaler cette série-là 1-1 avant de partir du côté de Seattle. Les marqueurs du côté de Dallas, Johnston a marqué son deuxième but des séries. Evgeny Dodonov qui a marqué tout un but hier, encore une fois, pour les Stars. Je sais pas où était cet Evgeny-là à Montréal, mais encore une fois, fait d'excellent boulot depuis son arrivée à Dallas. Joe Pavelski a également marqué un autre but hier, son cinquième déjà dans les séries éliminatoires. Et Tyler Seguin a marqué le dernier but des Stars de Dallas. C'est également pour lui son cinquième des séries éliminatoires. Et les deux marqueurs du côté du Kraken, Ty Carty, qui est la recrue, qui est venu un peu remplacer Jordan McCann, qui marque déjà son deuxième but des séries, et le vétéran Jordan Eberle qui marque son troisième but des séries éliminatoires. Greg, selon toi, qu'est-ce qui explique cette performance des Stars de Dallas après un match numéro 1 où que Joe Pavelski avait dominé, mais que le reste de l'équipe était un petit peu plus absent?
Ben, comme tu as dit, je pense que c'est juste que les Stars se sont présentés cette fois-ci, pas juste Joe Pavelski. Là, je pense que c'était une performance d'équipe complète. Oettinger, je veux dire, dans la première partie, ça n'a pas été glorieux pour lui. Là, je veux dire, il a fait le travail. Je pense que c'était pas son match le plus occupé. Je pense qu'il y a eu des matchs plus occupés, notamment Game 7 l'an passé contre Calgary. Mais bon, il a fait le travail qui était nécessaire. De l'attaque, là, je pense que c'était un peu plus partagé. Il n'y avait pas juste un gars qui a marqué 4 buts. Donc, il a quand même marqué un but, Pavelski. 5 buts en 2 matchs depuis son retour de blessure. Notre ami Dadonov, qui a maintenant 4 buts en, c'est quoi, 8 matchs. C'est autant qu'il est en 50 avec le Canadien cette saison. Donc, je pense que ça lui a fait du bien d'avoir un nouveau départ là, à Dallas. Puis, je veux dire, c'est ça qu'il faut qu'il fasse à Dallas. Je pense que c'était eux qui étaient vraiment identifiés comme les favoris dans cette série-là. Puis, je veux dire, en partie numéro 2, ils ont commencé à jouer comme une équipe qui était favorite. Puis, le Kraken, je veux dire, ils n'ont pas été capables de vraiment s'adapter. Puis, de contrer à autant l'attaque que la défense de pouvoir battre Oettinger. Donc, je pense que s'ils continuent à jouer comme ça, les Stars, je veux dire, je les vois pas vraiment échapper cette série. Par contre, j'avais dit la même chose avec Colorado, donc on peut tout le temps surprendre du côté de Seattle, mais non, je pense que les Stars ont joué une très bonne partie, une très bonne performance d'équipe hier.
Vas-y, Nick.
Ah ben j'allais juste dire, honnêtement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Tu sais, je pense que Dallas se devait de rebondir après le premier match parce que c'est un peu inacceptable que tu aies juste un gars qui se présente comme ça. Tu sais, oui, évidemment, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas si mal joué que ça, mais ça reste que tu sais, généralement, c'était pas glorieux du côté des Stars. Mais écoute, le Kraken, c'est une équipe vraiment surprise, oui, puis sont tellement difficiles à affronter. Là. Quand tu regardes jouer, c'est pas toujours élégant, mais je veux dire, c'est une équipe qui travaille fort, qui va tout le temps donner 70%. Puis moi, je pense que Dallas va réussir à passer, mais ça va prendre peut-être plus de matchs que certains s'attendent. Parce que le Kraken, vraiment, c'est des jeux dans le coin, c'est des petits détails qui font que vraiment ça te fait gagner en série. Puis écoute, je veux dire, même si c'est pas les plus beaux à voir, ça reste son beau à voir jouer parce que tu vois qu'ils sont là un pour l'autre. Puis écoute, le système de jeu est vraiment bien implanté là-bas, je pense. Fait que c'est ça. Je pense qu'hier, quand même, les Stars ont réussi à rebondir. Ils ont quand même dominé outrageusement une bonne partie de la rencontre. Fait que c'est ça. Je pense que les Stars sont sur une bonne voie, mais il ne faut pas prendre le Kraken pour battre dessus, surtout que c'est 1-1. Là. Il n'y a absolument rien de jouer là. Mais sur papier, Dallas devrait gagner, je pense bien.
Ouais, je suis d'accord avec vous aussi. Je pense que les Stars ont l'avantage. Puis la différence vraiment entre les Stars et l'Avalanche Colorado, c'est que l'Avalanche Colorado, ils ont eu des blessures qui ont fait vraiment mal, notamment celle de Gabriel Landeskog et l'absence mystérieuse de Valérie Nichushkin aussi, qui est partie en milieu de la série. Bon, ça, on se doute de la raison pourquoi, mais je préfère mieux pas en parler parce que, bon, ça va me mettre un peu hors de moi, là. Mais c'est ça. Il y a vraiment une différence au niveau de la profondeur des deux équipes. Hier, écoute, ma première fois des séries éliminatoires, j'ai vraiment eu l'impression que le Kraken était juste dépassé par le jeu des Stars de Dallas. Surtout les deux premières périodes, là, les Stars avaient déjà 30 tirs au but. Ils menaient déjà 3-1 dans cette rencontre-là. Ils avaient le contrôle total de ce match-là. Puis, les autres joueurs se sont présentés. Le premier match, c'était quand même assez rare de voir un joueur marquer 4 buts dans un match de séries éliminatoires. Bon, ça a été assez étrange cette année parce que tu as deux gars qui marquent 4 buts en l'espace de 2 soirs. Ça, c'est
les deux perdent.
Et les deux perdent en plus. C'est ce qui est assez, assez particulier. Mais ça ne change pas que les Stars étaient clairement la meilleure équipe hier soir sur la patinoire. Puis ça fait du bien également pour les Stars de voir des joueurs de profondeur qui produisent. On peut penser à Tyler Seguin qui a été longtemps un joueur vedette du côté des Stars de Dallas. Puis là, maintenant, au cours des deux dernières années, il est devenu un peu plus un joueur de soutien vu que maintenant, c'est un peu plus rendu l'équipe de Jason Robertson, de Roope Hintz, de Miro Heiskanen et également Jake Ottinger devant les filets. Puis, voir également aussi le bon vieux Evgeny Dadonov qui, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on comprend qu'il n'aimait pas ça jouer à Montréal, puis que maintenant qu'il se retrouve avec une équipe compétitive, commence à faire des beaux jeux et à marquer des buts spectaculaires comme hier soir ou faire des passes extraordinaires comme c'était une passe qu'il avait faite, je pense que c'était contre Winnipeg ou qu'en tout cas il y avait une passe revers qui était fantastique. Ça fait du bien d'avoir cette équipe-là. Puis écoute, c'est une équipe qui, des Stars sur le papier, c'est peut-être une des équipes, c'est pas l'équipe favorite dans l'Ouest pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite des choses. Puis pour le Kraken de Seattle, je sais pas pour vous, mais moi je pense que c'est le scénario quasi parfait pour eux. Je pense pas qu'ils s'attendaient à gagner deux matchs à l'étranger du côté de Dallas. Puis ils ont réussi à remporter au moins un match. Se retrouve avec une égalité de 1-1 pour revenir à Seattle. Selon vous, est-ce que vous pensez que le Kraken se retrouve dans une situation quasi parfaite ou vous pensez que les Stars de Dallas, avec le match numéro 2, ont peut-être regagné le momentum de cette série-là? Je vais commencer avec toi, Greg.
Ben, je pense que, comme tu as mentionné, je pense que les Stars ont retrouvé leur air d'aller là, dans le parti numéro 2. Mais je pense que les deux équipes, il arrive un peu en confiance dans la partie numéro 3. Puis je pense que c'est là vraiment que ça va jouer. C'est une partie que les deux équipes vont vraiment vouloir remporter. Je veux dire, côté Kraken, durant les séries, là, quand tu joues deux matchs de suite sur la route, je pense que à moins que ton dos soit contre le mur, là, tu veux tout le temps au moins remporter. Ben, tu veux tout le temps remporter, tu vises tout le temps remporter une des deux parties. Puis surtout quand tu n'as pas l'avantage de la patinoire. Donc là, je veux dire, le Kraken se retrouve avec un peu. L'avantage de la patinoire pour le reste de la série. La série est égale. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient accomplir. C'est sûr, gagner les deux, ça aurait été encore mieux. Mais je veux dire, je pense qu'ils sont très satisfaits avec le score de la série jusqu'à maintenant. Puis côté Stars, ben, je veux dire, le match numéro 2 les a un peu propulsés vers le match numéro 3. Je pense qu'ils arrivent en confiance. Puis je pense que le match numéro 3 va être vraiment important pour les deux équipes.
Toi, Nick?
Ben écoute, je pense Greg a pas mal tout dit. Là. C'est sûr que tu pars pas nécessairement en te disant que tu vas gagner les deux matchs à l'étranger, mais ça reste que un match est déjà très bien. Mais je pense que tu préfères gagner le deuxième match que le premier à choisir. Là. C'est sûr, c'est tu choisis pas ça, puis un match, t'es content, mais Dallas a repris un petit peu de la confiance en s'en venant du côté de Seattle maintenant. Mais ça reste que je pense que ça a peut-être joué dans la tête un peu quand même des Stars, puis ça va peut-être continuer d'avoir perdu un match contre Seattle à domicile, de se dire que c'est un match que tu voulais vraiment pas échapper, puis t'as pas réussi à faire ta job. Fait que Seattle joue vraiment sans complexe, selon moi. Là, même s'il avait perdu les deux premiers matchs, je suis pas sûr qu'ils auraient joué de la même façon qu'ils vont jouer les prochains matchs. Et c'est une équipe vraiment travaillante, puis c'est pas trop dans la dentelle. Fait que, est-ce que c'est le scénario idéal? Oui et non. D'après moi, ils sont très, très heureux d'avoir été capables d'aller gagner un match à Dallas. Mais ça reste que, écoute, tu veux gagner les deux matchs, puis revenir à la maison 2-0, ça aurait été vraiment le scénario parfait. Fait que, c'est pas mal ça, mais je pense encore que Kraken ont installé un certain doute dans la tête des Stars. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont être capables de capitaliser là-dessus? Je pense que ça va dépendre du prochain match. Si Kraken est capable d'aller chercher le prochain match, là, on a vraiment une série qui pourrait être une surprise. Dallas, ils ont une très très bonne saison, mais là, d'arriver et être challengé comme ça par une équipe, peut-être que tu t'attendais pas nécessairement déjà à voir en deuxième ronde, mais qui challenge autant, ça va peut-être créer une situation qu'on n'a pas trop vue du côté de Dallas, du moins cette saison.
Mm-hmm. Je suis d'accord avec vous, surtout. Puis, fait intéressant aussi sur Joe Pavelski. Bon, Joe Pavelski, hier, est devenu. Ben, en fait, a marqué son 69e but en séries éliminatoires et il est le troisième meilleur marqueur au total dans sa carrière en séries éliminatoires parmi les joueurs actifs. Seulement, Alexander Ovechkin et Sidney Crosby ont plus de buts que lui. Puis, comparé à ces deux joueurs-là, Joe Pavelski n'a jamais encore remporté de Coupe Stanley, ce qui est assez incroyable. Il a quand même 69 buts en séries éliminatoires puis pas de Coupe Stanley. C'est quand même assez particulier. Bon, il a joué une finale de Coupe Stanley en 2016 avec les Sharks de Saint-Rosé, puis il a fait partie de nombreuses équipes des Sharks qui pouvaient se rendre loin, mais qui ont choqué pendant de nombreuses années. Il a fait gagner une finale de Coupe Stanley aussi avec les Stars en 2020. Malheureusement, n'a pas été capable de remporter Coupe Stanley. Est-ce que vous pensez que Joe Pavelski est le leader de cette équipe-là ou les Stars n'auront pas le choix d'avoir une plus grande productivité de la part des Robbie Innes ou des Joe Robinson pour espérer remporter cette série-là? Je vais commencer avec toi, Nick.
Ben écoute, je pense que ta question est en deux temps, parce que est-ce que on peut dire que c'est l'équipe à Pavelski? Je pense que non, malgré ses très très bonnes performances dans les deux derniers matchs. Je pense que ça reste l'équipe des Oettinger, Robinson, les joueurs qu'on connaît, Rupins aussi. Mais ça reste que, selon moi, c'est lui le leader de cette équipe-là. T'sais, c'est lui qui se lève dans les grands moments. On l'a vu au premier match, même s'ils ont perdu, c'est lui qui s'est présenté et qui a joué comme un forcené tout le match. Encore là, je ne me rappelle pas vraiment de mauvaises performances de Pavelski dans les derniers temps. Puis, je pense que ça reste que c'est lui le vétéran qui est une pièce super importante. Je ne veux pas faire de comparaison boiteuse, mais un petit peu dans le même sens, par exemple, que le Canadien, il y avait Corey Perry, que c'était le joueur qui, selon moi, oui, il y avait des Carey Price chez Weber, mais Corey Perry avait une présence tellement importante, puis c'était lui un peu qui amenait le leadership qui a manqué si longtemps au Canadien. Je pense que Pavelski, c'est à ça qu'il sert aussi. Peut-être assumer le rôle de leadership que les autres, les stars de l'équipe, ben les stars des Stars, hein, c'était un mauvais jeu de mots, là, c'était pas voulu, sorry. Mais ils sont pas prêts à assumer peut-être encore dans des moments qui sont peuvent être stressants, des moments qui sont serrés comme ça. Puis un gars comme Pavelski, justement, malgré le fait qu'il n'a pas remporté de Coupe Stanley encore, il a tellement d'expérience, puis il est encore tellement bon, je veux dire. C'est vraiment une pièce importante des Stars quand même s'il n'est plus le joueur vedette nécessairement.
Mm-hmm. Ouais, ben écoute, en termes de leadership, je pense que, je sais pas, en dehors de la patinoire dans le vestiaire, j'ai jamais été dans un vestiaire avec lui. Donc, je doute pas que c'est un excellent leader, là. Il était capitaine à San Jose et puis tout ça. Sur la glace, je pense que récemment, là, ben, surtout depuis les deux derniers matchs, depuis son retour des blessures, c'est lui qui montre l'exemple un peu sur la patinoire. Je pense que une première ronde exemplaire. En deuxième ronde, c'est vraiment Pavelski qui a pris un peu l'équipe sur son dos. J'attends un peu une éclosion de Robertson. Il a 7 points en 8 matchs, mais quand même, je pense qu'il est capable de faire encore beaucoup mieux. Puis oui, je souhaite le mieux pour Pavelski, te mentionner. Pas encore de Coupe cette année, malgré le fait que c'est le troisième joueur avec le plus de buts actifs. Donc, on lui souhaite le mieux. Puis, c'est ça. S'il y avait un trophée pour le plus de knock-out en série, je pense qu'il le remporterait, mais bon, c'est une autre histoire. Je pense que si je souhaite le mieux, je pense que c'est un excellent leader, puis il mérite d'aller loin.
Je veux dire, les Stars, ils ont une équipe pour aller loin cette année, selon moi, là, surtout avec les grosses têtes d'affiche qui sont parties en première ronde, ils peuvent y croire, t'sais. Je pense qu'ils ont une équipe assez solide, assez bien bâti un peu partout, puis t'as Tinger, évidemment, des buts que s'il est capable de recréer des exploits comme on a vu par exemple avec Carey Price ou avec d'autres gardiens récemment, tu sais, je pense qu'il peut tenir cette équipe-là, mais c'est une équipe beaucoup plus bâtie que d'autres équipes qui se sont faites sauver par un gardien dans les dernières années.
Canadiens de Montréal a quand même fait une finale de Coupe Stanley avec Carey Price, quand même, faut le mentionner. C'était peut-être pas la meilleure équipe sur le papier, mais ils ont quand même fait une finale de Coupe Stanley. Les Stars ont fait une finale de Coupe Stanley aussi avec Udobin. Fait que t'as pas besoin d'avoir un gardien de but élite pour te rendre jusqu'au bout. On peut
t'as pas besoin, aussi... mais ça l'aide.
Ouais, on peut parler aussi de Matt Murray, mais pour une fois, je vais pas encore plugger mon club. Fait que, regarde. Bon, messieurs, c'est qui complète ce nouvel épisode de Nos Premières Loges, Grégory Hamel, Nicolas Charon, merci beaucoup. Ça a été plaisant. Puis bon, on vient à la maison. On se revoit très vite pour un nouvel épisode de Nos Premières Loges. Bon, donc, ce soir, il y a seulement un match, comme on l'a mentionné. C'est le match entre les Hurricanes de Caroline et les Devils de New Jersey. Match numéro 2 du côté de la Caroline. Puis écoute, au nom de toute l'équipe, je suis Dwali Ibrahim et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Nos Premières Loges. Salut tout le monde.